Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Mickaël Laudra. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, j'avais 11 ans et lui 17. Il jouait un petit tournoi à côté de chez moi. Il faisait déjà service volé et avait déjà un fort caractère. Il est un personnage atypique du tennis français. Certains disent grande gueule, d'autres honnête. Moi, je dirais entier. Pour cet entretien, j'ai eu la chance de passer 3 jours avec lui à Bordeaux pour le Mika Challenge, un événement qu'il organise en famille, durant lequel il partage ses passions du sport et du vin. Un moment authentique comme lui. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange. Bonjour Mickaël Laudra, est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie ?
On se tutoie, on va pas faire semblant.
Exactement, on va pas faire semblant parce que j'aime bien raconter un peu les coulisses. On est à Bordeaux pendant ce qu'on appelle le Mika Challenge. Où pendant 2-3 jours, tu lis tennis, vin et les sportifs pour une association, pour la bonne cause. Et pendant ces 3 jours, alors il y a de la dégustation de vin, mais il y a aussi des moments de partage. Tu as joué avec Henri Lecomte, avec Mansour Barami, avec Lucas Pouille. Et puis il y a d'autres sportifs qui viennent pour la bonne cause récolter de l'argent. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots déjà là-dessus ?
Ouais, le Mika Challenge, c'est parti d'une aventure il y a quelques années. J'étais encore en activité. Et puis, quand on est sportif de haut niveau, c'est 8 mois de l'année à l'étranger. Et puis, j'avais envie de retrouver ma famille, mes amis, mes sponsors le temps d'un week-end. J'ai fait ça pendant 6 ans sur ma fin de carrière. Mes copains vignerons, on se retrouvait soit en Bourgogne, en Vallée du Rhône, à Bordeaux. Et puis, bien sûr, quand j'ai arrêté, j'avais un peu plus de temps pour voir tout le monde. J'ai arrêté. Et puis, ça c'est la tradition a repris, on va dire. J'ai été poussé par quelques clients, quelques copains vignerons qui m'ont dit ça serait sympa de refaire un petit Mika Challenge. Et puis, on a relancé ça. Il y a 2 ans, 2019, on avait fait ça au Palais des Sports à Bordeaux. Et puis, avec le Covid, on n'a pas pu faire en 2020 et 2021. On a rajouté en plus de ça. Une vente aux enchères avec l'association le Sport a du cœur qui mobilise tous les sportifs de tout sport qui se mobilisent pour les athlètes qui sont un peu dans la précarité qui ont eu des difficultés ou qui sont en réinsertion professionnelle, ceux qui ont eu des graves blessures aussi, et puis pour la jeunesse, pour les aider à franchir des caps s'ils veulent être champions ou tout simplement pratiquer une activité sportive au quotidien pour sortir, on va dire, du travail et puis essayer de leur donner leur inculquer des bonnes valeurs. Sur un week-end, je fédère mes amis vignerons autour d'un grand dîner de gala qu'on a organisé à Lafite Rothschild cette année. Et puis hier, la participation des vignerons, des sportifs. On avait Alain Bernard, Tessa Worley, Julien Zizrou, Richard Diagana, Richard Dacoury, Stéphane Diagana, Richard Dacoury. Je mélange un peu tout, mais donc plein de sportifs qui étaient là, des footeux, des rugbyman aussi. Et donc, le principe, c'est de récolter un maximum d'argent pour cette association, le Sport a du cœur. Donc, le mélange la passion du tennis, la passion du sport, les sportifs pour la bonne cause, et puis mes amis à Avignon, qui est une passion qui est installée depuis une vingtaine d'années, mais qui est mon nouveau, on va dire,
on en reparlera.
On en reparlera.
On sent cet esprit fédérateur, ce côté très collectif qui est quand même assez rare chez les joueurs de tennis, faut le dire. Mais on va commencer par le début. Comment le fils de Michel Laudra, professionnel au PSG, est devenu joueur de tennis ?
C'était très très long parce que forcément j'ai baigné dans l'atmosphère football très jeune avec mon frère qui a 8 ans de plus. Et c'est avéré que j'avais 6 ans, et puis mon père était en vacances en Italie, et puis j'ai pris la raquette au retour d'une sieste, et puis j'ai renvoyé la balle. C'est avéré que les amis avec qui on était étaient profs de tennis. Je lui ai dit, oh, il a déjà joué au tennis, tu devrais l'inscrire dans un club. Et puis voilà, ça a démarré comme ça. J'ai commencé à jouer à l'âge de... J'avais 6 ans et demi. Mmh. Je jouais moitié tennis, moitié foot, et puis à un moment donné, il a fallu choisir à l'âge de 13 ans entre le foot et le tennis. Et j'ai choisi le tennis parce que j'avais un meilleur pote dans le tennis.
Okay.
Ça, c'est pas joué à grand chose, mais voilà.
T'étais un espoir, disons, turbulent, on va dire.
C'est le minimum qu'on puisse dire.
Alors, pourquoi déjà on le dit et pourquoi, ça se sait, mais quand tu regardes maintenant, t'es un adulte, comment tu te sentais à l'époque? C'était quoi les raisons?
Non, mais après, voilà, chacun a sa courbe, on va dire, d'évolution. C'est vrai que j'étais très turbulent, que ça soit à l'école ou sur les cours de tennis. Toujours besoin de m'exprimer. J'étais une pile électrique, et c'est vrai que pour moi c'était un défouloir d'arriver sur le terrain, ou sur le terrain de foot ou sur le court de tennis. Et c'est vrai que dans la jeunesse, j'ai gardé pas ma langue dans ma poche, j'étais assez nerveux, j'avais besoin de m'exprimer à ma manière. Et c'est vrai que j'ai eu longtemps des débordements qui m'ont coûté des renvois.
Il y a eu des renvois de la FFT,
plusieurs fois, deux fois, du collège. Des clubs, pour, on va dire, une multitude de petites conneries, mais qui font à un moment donné que les gens en ont marre, et je pouvais être insolent, je pouvais manquer de respect. Je mettais vraiment la limite, et j'ai vraiment mis la limite très très haute. Je suis pas là à dire que c'est facile, mais moi c'est un exutoire quelque part. Ouais. Et malgré tout, j'avais quand même cette fin de réussir, même si je faisais des conneries. J'étais un vrai compétiteur, et je pense que c'est ce qui m'a gardé en vie. Même je pense avoir été un adolescent à vif, on va dire, et que ça a pris du temps avant de mûrir, avant de prendre conscience de certaines choses qui semblent évidentes pour des jeunes, mais qui l'étaient moins pour moi. Mais malgré tout, j'avais toujours au fond de moi cette passion du jeu, cette passion du tennis, avec un brin de folie, de talent. Alors effectivement, sur des matchs, j'étais capable de faire des matchs de folie, et puis des fois, je passais au travers, où la moindre petite, étincelle pouvait me faire sortir du match, et ça a été le cas pendant quelques années avant de trouver cette stabilité qui a fait que j'ai pu aller un peu plus loin et envisager d'aller chercher le top niveau, j'ai envie de dire.
C'est ça qui est intéressant, parce que tu dis ok, j'ai été turbulent, mais quand on te connaît, quand t'as vu sur le terrain dans ta carrière professionnelle, tu disais pas pour grand chose, t'étais au taquet, c'était pas Kyrgios, quoi.
Non, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'identifie beaucoup à des Kyrgios, des Benoît Paire, avec des forts tempéraments, un peu provocateurs.
Je veux dire, tu cassais pas de raquettes.
Non, j'étais nerveux, mais c'était plutôt entre 16 et même 14 et 20 ans, ça pouvait être houleux de temps en temps, et puis des prises de tête avec l'entraîneur, je voulais en faire qu'à ma tête, et puis c'est vrai que j'avais un système de jeu aussi qui était compliqué à mettre en place, qui prend un peu plus de temps pour vraiment prendre conscience de ses armes. On sait tous que joueur service volé, faut être fort physiquement, faut être capable d'accepter, de se faire trouer, de faire passer. Et ça demande un petit peu plus de maturité. Alors effectivement, quand tout était aligné, je servais bien, j'étais capable de sortir des matchs de haut vol. Et puis souvent, j'étais rattrapé par cette nervosité ou cette envie d'aller trop vite. J'étais un peu trop... peut-être impatient, et je voulais que tout aille vite, et je supportais pas peut-être de me faire breaker ou de rater une volée facile, et ça m'a coûté plein de matchs.
T'as des gens qui t'ont aidé là dans cette formation, qui ont été des catalyseurs, des bons formateurs, mais aussi des sources d'inspiration?
Ouais, je pense que dans toutes les carrières de sportifs, ouais. On est à un moment donné à un cycle de notre vie. On a toujours des personnes qui nous font prendre conscience. Moi, bien évidemment, ça a été mon père, hein, en premier lieu, qui a été voilà, plus que présent. Et je crois que dans toutes les familles, on a toujours une personne de la famille qui est là, qui est ultra présente. Moi, c'est vrai que mon père a eu cette déception de ne pas avoir franchi vraiment le cap, parce qu'il avait un père de l'ancienne génération qui, pour lui, le sport représentait pas grand chose. Donc, il a souffert de ça, de pas avoir un père derrière lui. Et moi, ça a été l'effet inverse. Donc, il m'a couvé, quitte à se prendre la tête avec ma mère. C'était des discussions houleuses, je savais, hein, parce que je m'en comportais pas bien, que ma mère, pour elle, c'était incompréhensible de faire du sport de haut niveau, enfin, envisager du sport de haut niveau avec, de tels débordements. Mon père a été plus qu'un allié, ça a été celui qui m'a le plus défendu, et pourtant j'étais indéfendable, et il trouvait toujours la parade pour essayer de dire, mais attendez, c'est pas mon fils quand même. Donc il avait vraiment envie de voir son enfant réussir, et puis après, dans chaque étape, pour moi le premier, ça a été Emmanuel Planck, dit Manu, qui m'a pris à l'âge de 12 ans. Alors je suis arrivé, je me suis blessé, je me suis cassé le bras, je suis revenu, et Manu avait cette force d'absorption je buvais ses paroles. Il avait compris en moi comment, alors ça a mis un peu de temps, hein, mais comment attirer mon attention, comment arriver à exploiter mon potentiel. Et c'était pas évident. Maintenant, avec le regard, avec le recul, c'était pas simple. Et puis avec des hauts et des bas, mais c'est vrai que ça a été la personne qui m'a fait prendre conscience, on va dire, de mon potentiel, et qui a su allumer la flamme quelque part. Après, il y a eu Georges Degnaud aussi, qui m'a beaucoup aidé, parce que il adorait les gauchers, une fameuse réplique
offensive.
Pour
moi,
il faut être grand gaucher, un peu con, mais pas trop. Voilà, c'était la phrase mythique. Et puis j'ai passé 2 ans à Boulouris qui m'ont beaucoup beaucoup aidé, beaucoup appris. On avait une vraie émulation avec un groupe de jeunes qui était top. Puis après, j'ai repris Manu une nouvelle fois, où j'étais un peu plus mature. J'ai gagné mon premier tournoi ATP avec lui. Et puis après, une nouvelle fois, après tu rentres dans
la
carrière est lancée. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été une vraie prise de conscience avec Manu, qui a été, je pense qu'il s'est formé avec moi, je me suis formé avec lui, et aujourd'hui il a une carrière d'entraîneur qui est brillantissime, parce que il est habité par ce qu'il fait. Il est il mange, il boit, il dort, tennis, toujours à la recherche de la performance, et aujourd'hui ça se perd.
Il emploie la phrase je traque le progrès,
bien sûr, et c'est aujourd'hui je pense, peut-être le meilleur entraîneur français dans la formation. Après, il faut adhérer à son projet, il faut vraiment être en adéquation avec ses paroles, et c'est pas de secret, s'il a formé un joueur comme Ruffin, comme Lucas, parce que il faut être absorbé par par l'univers Manu, quoi.
On commence, on regarde ta carrière. Déjà, je me posais la question, est-ce que quand on a fait une carrière comme la tienne, est-ce qu'on y pense beaucoup maintenant qu'on est à la retraite ?
Aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai arrêté. Bien évidemment, quand je vais dans un club de tennis, alors c'est plus les jeunes qui me reconnaissent, mais c'est plutôt la génération, on va dire 40 ans, 50 ans et plus. Mais j'avoue avoir de temps en temps un peu de nostalgie quand je regarde des matchs de Coupe Davis, des matchs à gros enjeux où j'avais la sensation de vivre ces émotions-là il y a quelques années. Et puis à côté de ça, je suis bien content d'avoir arrêté, parce qu'à un moment donné, il faut tirer un trait. Aujourd'hui, j'ai un fils qui joue un petit peu au tennis, un peu en mode loisir, on va dire. Mais on se tire un petit peu la bourre, c'est assez sympa d'avoir ce jeu père-fils. Mais j'ai beaucoup d'admiration aujourd'hui pour les joueurs qui se jettent corps et âme dans leur carrière, parce que c'est vrai que moi j'ai eu aussi cette chance, cet équilibre avec ma femme, voilà, que j'ai connue très très tôt. Elle avait 13 ans, j'en avais 15. Voilà, on a grandi ensemble, on s'est formé ensemble. Elle a eu une blessure, elle a arrêté. Et puis on a eu un enfant très 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 jeune. Ça n'a pas été simple parce que quand on a 20 ans, 22 ans, avec peu d'expérience et que voilà, moi je me lançais dans ma carrière et puis elle en tant que maman jeune, voyager, ça a été, mais c'était un équilibre incroyable. Pas toujours été facile parce que gérer les états d'âme d'un sportif au quotidien avec tout ce que ça représente, voilà, et aujourd'hui ça a été une force incroyable, et ce qui m'a permis peut-être de faire une carrière, parce que avec le tempérament que j'avais, la folie que je pouvais avoir, et puis voilà, cette fougue, elle a su me canaliser. Alors pour certains, me canaliser Michel Laudra, c'était déjà bien haut. Mais j'avais malgré tout au fond de moi des qualités, je pense, d'entraînement, de rigueur, qui m'ont permis aussi d'aller chercher. Alors souvent, on catalogue facilement, on dit « ouais, bah lui, il déconne, il chambre ».
Ouais, mais t'es pas un branleur.
Mais exactement. Moi, je m'entraînais sérieusement, à la dure. Par contre, je pouvais sortir d'entraînement et puis déconner, voilà. Mais puis après... plus tard est venue la passion pour le vin, mais voilà, je buvais pas, je picolais pas tous les jours, quoi. Ça m'arrivait de boire des soirs et de me lâcher, mais toujours une arrière-pensée qu'il pouvait y avoir entraînement deux jours après. Donc voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez marrant parce que j'entends tout et n'importe quoi sur mon compte, parce que voilà, j'ai mis la barre très très haute, comme tu le sais, et que forcément, ça m'est arrivé, même mon fils, quand il a été faire des stages, oh putain papa, mais t'as fait ça, il y a eu des rumeurs qui ont été extraordinaires, ça me fait beaucoup rire, parce que bien évidemment, tout a été modifié, amplifié, des fois, de temps en temps, pas suffisamment, mais bon, voilà, quoi, c'est aussi ce qui fait le charme, je pense, de mon personnage, parce que effectivement, même encore aujourd'hui, c'est assez marrant de pouvoir entendre, même 10-15 ans après, des conneries que j'ai faites quand j'étais jeune et puis qui ont été déformées, modifiées. Voilà, moi, ça me fait rire.
Cet équilibre dont tu parles avec ta femme, tes trois enfants, très jeunes, c'est assez rare dans le tennis, d'ailleurs, que ce soit là, dans les jeunes générations, c'est assez rare. En quoi ça a été, pour toi, une source d'équilibre? Et est-ce que c'était... Parce que, en fait, tu vois ça en toi, tu as ce côté, je le vois là, fédérateur, tu aimes être entouré, tu aimes partager, en fait. Est-ce que c'est aussi avec... C'est ça qui ça a été la première manifestation de ce trait de caractère?
Ah ben non, mais moi, c'est un vrai moteur. Ça a été une vraie source d'inspiration pour moi. Pourquoi j'aime bien jouer en double? Parce que j'aimais partager. J'adorais avoir quelqu'un à mes côtés, de pouvoir le faire rire parce que je sentais qu'il était tendu. Je pense avoir des qualités, ou du moins des valeurs de partage, de convivialité. Alors ça m'a joué des tours de temps à autre. Mais malgré tout, aujourd'hui, je suis assez fier par rapport à ça, parce que on va dire, j'étais peut-être le plus collectif des sports individuels. J'ai jamais balancé un double. Pourtant, à l'époque, c'était tu perds en simple, tu jettes le double et puis tu vas t'entraîner. Mais les entraîneurs, je leur dis non, moi je le double à fond, parce que j'avais cette envie de partager. Et puis en double, c'est sympa, tu peux. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai été éduqué aussi comme ça. Le sport co a été hyper important, et aujourd'hui encore, j'adore partager. Le Mika Challenge, c'est une affaire de partage, de convivialité, et voilà, tout au long de ma carrière, ça a été un moteur d'avoir toujours des gens autour de moi. J'ai toujours eu des entraîneurs qui étaient des copains, jamais un entraîneur étranger, vraiment relation de boulot, quoi. Moi, ça a été toujours des gens avec qui j'ai vécu une expérience, soit plus jeune, des anciens joueurs, avec qui j'avais du lien, parce que on vit 8 mois de l'année avec cette personne, on voit plus souvent son entraîneur que sa femme, donc j'ai besoin d'être un confident, un allié, et ça a été pour moi un vrai plus. C'était les ingrédients magiques pour que ça s'apprenne, parce que sinon, je me sentais pas bien, quoi.
On commence à regarder en arrière dans ta carrière. Si tu devais garder une saison dans ta carrière, ce serait laquelle?
2010, je pense que ça a été la saison la plus aboutie, parce que je gagne mon plus gros tournoi, on va dire en France, celui qui manifestement peut gagner des tournois, et pourtant j'avais gagné un 500 quelques années avant, enfin 2 années avant à Rotterdam, en battant Del Proto, Davidenko, Söderling, mais c'est à l'étranger quand on gagne un tournoi en France. Alors Enfin, je sais dire ça, c'était, j'ai battu ton frère.
Conduit, hein.
Mais voilà, c'était, c'est hyper important quand tu gagnes un tournoi. C'était les vacances scolaires, toute ma famille, mes amis. T'as la sensation ou le fait de gagner un gros match, la chance de battre le numéro 1 mondial à Bercy. Ouais. Voilà, moi qui étais parisien. Donc voilà, c'est des souvenirs. Ouais, l'année où je fais demi, ouais, j'ai 3 balles de match, 3 balles de match sur les lignes. Et c'était voilà, il y a eu une campagne de Coupe Davis aussi en 2010 ouais. où je gagne 7 matchs sur 8.
Exceptionnel.
Voilà, où je bats 3 top 10 en simple, en double, et puis moi j'échoue pire des moments quoi, match de partout contre Troïki. Mais je dirais que c'est la saison la plus aboutie, à un ou deux matchs près, je suis dans le top 10. Ouais. Ça a été voilà, j'étais fort physiquement, sûr de mes forces. Et puis voilà, il y a des années comme ça où on se sent mieux, puis où les planètes sont alignées, une part de réussite aussi. Voilà, je finis cette année-là 21e. Donc voilà, c'était 2010, restera une saison forte.
La Coupe Davis, super important pour toi. J'ai eu la chance, pareil, parfois d'être dans les coulisses, de voir à quel point, donc c'était beaucoup, toi tu as eu beaucoup Guy Forget comme capitaine, même peut-être exclusivement que Guy, non, si c'est le cas.
J'ai eu Arnaud.
Ah, t'as eu Arnaud sur la fin
Ouais, sur la fin.
Ok. Hein. Et ce que je voulais dire, c'est que très important pour toi, et tu parles de cette finale de 2010 en Serbie, qu'est-ce que tu peux nous dire comme souvenir de ça?
Bon, la Coupe Davis, pour moi, c'était voilà, très très jeune. Pour moi, c'était représentant l'équipe de France. Ça m'a fait les souvenirs de 91. Guy Forget, Henri Lecomte ont été pour moi voilà, une ouverture d'esprit, et c'est ce que j'avais envie de faire, quoi. Et aujourd'hui, j'aurais adoré. Voilà, j'ai vécu des émotions incroyables en 91 en tant que spectateur télévisuel ouais. à la télé. Et puis après, en 2001, j'étais sparring partner en 2001. C'est assez marrant parce que j'étais loin d'être sélectionnable dans l'équipe, mais comme j'étais complètement en retrait, passionné, on faisait des matchs avec Arnaud Clément de folie, quoi. Je jouais, c'était sur gazon, je servais bien, et à un moment donné, je sais que ça a été, c'était Georges Deux, l'entraîneur, il dit, sur quelques entraînements, il disait, bon, putain, c'était un peu tendu entre Fabrice et Cédric. Je sais qu'à un moment donné, il disait, putain, Mika, waouh, bon, il est jeune, il a jamais été question de m'aligner, parce que l'expérience compte tellement dans ce genre de rencontre. Mais la Coupe Davis, ça a été, c'était les premiers, voilà, dans mon agenda, c'était vraiment les rencontres, je les plaçais et je faisais tout pour être sélectionné. Donc pour moi, ça a été vraiment le moteur de ma carrière. Après, je plaçais les grands chelems, mais la Coupe Davis en numéro 1, de loin. Et je pense avoir un record que personne ne sait. Et je m'en vante assez aujourd'hui parce que je pense que c'est pas si simple. J'ai joué 11 ans de suite sans rater une rencontre.
Ah ouais.
Parce que j'étais habité par ça. Ouais. Je pense qu'à l'époque,
t'étais incontournable en double.
Ouais, voilà.
Et après, en simple, t'as été exceptionnel.
Et c'est vrai que c'était en double. C'était voilà, j'ai eu la chance d'avoir Guy qui me faisait entièrement confiance. Et puis j'avais pas trop de concurrence quelque part. J'étais à la Fabrice venait d'arrêter. Voilà, j'étais la nouvelle génération. Ouais. Et puis voilà, j'ai joué beaucoup avec ton frère. Mmh. Après, il y a eu avec Arnaud aussi quelques piges avec Scud, avec Seb. Des souvenirs mais incroyables. Aujourd'hui, si je dois regarder des matchs me concernant, je mets tout de suite la Coupe Davis ouais. parce que le public voilà, j'étais habité par ça quoi. Et pourtant ça m'est arrivé de passer au travers, mais ça reste de représenter son pays, la Marseillaise, vivre en équipe. J'étais voilà, j'étais plus que fédérateur, c'est-à-dire que je me souviens avec Arnaud, on se mettait à l'entraînement chiffon et puis on faisait tout pour que les autres joueurs, alors même s'il y avait un écart de génération qui le voyait pas forcément, pour que ça aille bien, de temps en temps je pouvais chambrer un petit peu, mais c'était peut-être de temps en temps pour faire réagir aussi, et puis voilà, et puis j'ai toujours été très très proche du staff aussi, qui était hyper important pour moi, parce que il y a une vraie relation de confiance qui s'installe au fur et à mesure du temps. Et pour certains, sont restés des amis qui resteront à vie, quoi.
Cette finale en Serbie, tu gagnes, donc tu sors de ce Bercy où tu es demi-finaliste avec 3 balles de match, effectivement, mais t'es en pleine bourre, entre guillemets, on va le dire. Et vous gagnez le double en 5-7 en étant mené 2-7-0.
Ouais, 2-7-0, on est mené 4-1 au quatrième. C'est un match hold-up, on le gagne vraiment au cœur, quoi. Et puis, on est presque... quand on gagne, moi je suis au bout, enfin, vraiment nerveusement au-delà du physique. Et puis c'est vrai que j'avais été un peu déçu malgré tout, parce que j'avais battu Djokovic 3 semaines avant. Et puis, bon, même si c'est pas du tout le même contexte, que c'est pas la même surface, Bercy était très très rapide, ouais. Là c'était un peu plus lent, meilleur des 5 manches. Et c'est vrai que j'avais été un petit peu blessé de pas être aligné le premier jour contre Djoko, parce que j'aurais pu jouer Djoko, j'aurais été deuxième, ouais. Derrière le numéro 1, j'aurais pu jouer Djoko. Et finalement, voilà, choix stratégique de la part de Guy, mais voilà, au fond de moi, je suis quand même un petit peu. Enfin, j'ai rien à perdre contre Novak, donc forcément, je me dis, bon, voilà, c'est un match où je peux me livrer. Puis finalement, bon, là, on tourne un partout, je joue avec la clé, je joue pas très très bien. Puis finalement, dans les moments importants, j'arrive à faire la différence. On sort un match à la fin avec Tetris, puis on le gagne en 4h50 de jeu. Voilà, match que tu gagnes peu de fois sur le circuit, mais ouais. Avec le cœur, avec l'envie, le fait qu'on soit très très potes avec Arnaud, on arrive à retourner le match.
Puis dans une salle très hostile.
Bien sûr, 22 000 personnes voilà, qui font tout pour te péter les plombs, qui t'envoient des pièces de monnaie, qui t'insultent, qui te crachent dessus. Et c'est pas des mots comme ça, hein, on l'a vraiment vécu. Hein. Et puis voilà, le soir, bon, débrief un petit peu. Rapidement, Guy vient me voir pour me demander comme je suis. Et là, je suis un petit peu... Je suis touché nerveusement et très très vite, je sens que voilà, c'est moi qui vais être aligné le lendemain, quoi. Parce que j'ai gagné 7 matchs sur 7, que je suis en plein de bourre et que voilà, s'il doit y avoir un match décisif, je sens que ça sera pour moi, quoi. Et puis on décide quand même malgré tout de faire un point le lendemain matin pour voir comment ça se passe. Le lendemain matin, ça tire un petit peu. Puis de l'autre côté, il y a Gilles Simon qui veut vraiment, Gaël était incontournable, Gilles Simon qui veut y aller, mais qui a pas des superbes stats. Il a gagné simplement un match sur 9, je crois, en Coupe Davis. Donc pour Guy, ça semble évident. J'en parle un peu avec lui, je lui dis que je suis un peu touché, je m'échauffe, j'ai les jambes lourdes, j'ai mal un peu aux jambes, mais bon voilà, je sais que dans ces moments-là aussi, t'écoutes un petit peu plus ton
bien
corps.
Sûr.
Puis peut-être la plus grosse erreur qu'on ait faite, c'est forcément de montrer très très tôt que c'est moi qui vais jouer s'il y a un match décisif. Et ça, ça a été un gros regret. Je m'en suis voulu énormément et pourtant, je n'étais pas le capitaine. On avait tout un staff et puis voilà, c'était très très vite, ça a été acté que c'était moi et on a montré peut-être un petit peu trop vite. Le fait voilà, que je ne sois pas sur le banc. Gilles a suivi toute la rencontre, le premier match entre Djokovic et puis Gaël. Et puis, oui. Alors on ne le saura jamais, mais en tout cas, je devais jouer Tip Saravic. J'avais jamais perdu contre lui. C'était une autre approche. Et je pense qu'ils ont. Alors j'en ai parlé avec Nenad Zimonjic.
Ouais.
Et c'est vrai qu'ils ont hésité aussi. Quoi. Et c'était un vrai pari. Ils étaient sûrs que c'était moi qui allais jouer. Et qu'ils ont changé au dernier moment, le lendemain matin. Ils ont changé. Et ils ont mis Troïki parce que Tip Saravic, je ne voyais pas retourner service ouais. pendant 3 heures ou 4 heures. Quoi. Et Troïki voilà, se sentait plus à l'aise. Je ne l'avais jamais joué en simple. Donc pas de repère, même si j'avais joué en double. Il avait très bien retourné. Mais bon, en simple, c'est différent. Et je pense que malgré tout, ça se joue à des détails, même si j'ai pris. Voilà, j'ai pris une tôle, il faut dire ce qu'il est, hein, 6-3, 6-2, 6-2, un truc comme ça. Mais je pense que ça se joue à des détails parce qu'au début, j'ai des balles de break très très tôt dans ouais. le premier jeu. 2-1, 15-40, il me fait un passing incroyable, boisé, croisé court. Et si ça fait 3-1, je pense que ça peut complètement changer le match. Et même si à la fin, voilà, j'ai été étouffé nerveusement, physiquement, je sentais que j'avais de plus en plus les jambes lourdes. Et puis après, rattrapé aussi par les émotions, parce que c'est une finale de Coupe Davis, que tu as envie de, voilà, de donner le rêve le plus ultime
bah
pour
ouais.
moi. Quoi. Donc forcément, ça met un peu plus de pression. Mais quelque part.
Quand on dit rattrapé par les émotions, on entend cette expression. Qu'est-ce qui se passe physiquement enfin, concrètement, qu'est-ce qui se passe en soi ? Est-ce qu'on se dit des choses ?
Non, mais t'as ton capitaine qui est là, qui te parle et machin, mais tu sens que c'est dur à percevoir, mais ça rentre et puis ça sort un petit peu de l'autre côté de l'oreille, quoi, et que t'as les jambes qui sont très très lourdes. Ton corps répond pas normalement. Je faisais service volé, je faisais tout le temps des volées en dehors du carré de service, donc je allais beaucoup moins vite, les jambes empruntées, quoi. Et du coup, peut-être que on va dire pour l'amateur lambda à la télé, il s'en rend pas compte. Mais j'avais tout le temps des volets très très difficiles à jouer et j'étais beaucoup moins explosif. Et je pense que la veille, on n'a pas mesuré l'impact d'être mené de 7-0, d'aller chercher au fond de nous-mêmes cette victoire. 22 000 personnes, 5 heures de match. Et puis le double, c'est peut-être moins épuisant, on va dire, parce qu'il y a moins de rallye, voilà. Mais t'es une pile électrique.
Ouais, nerveusement.
Je pense que c'est deux fois plus dur que le simple. Parce qu'il y a une vraie ligne continue quand tu joues en simple. Tu vas jouer des balles, tu vas retourner, tu vas servir. Là, des fois, il se passe rien, mais faut être, voilà, t'es sur 3000 ampères, quoi. T'es tout le temps réactif, quoi. C'est très explosif, quoi. Et ça bouffe nerveusement, hein, de l'influx, quoi. C'est terrible.
Il y a eu la Coupe Davis. T'as joué en double, tu disais, t'as eu trois titres du Grand Chelem, deux avec Arnaud Clément, un avec Fabrice Santoro.
Deux avec Fabrice, un avec Arnaud Clément.
Pardon, l'inverse.
L'inverse.
C'est ça. Deux avec Fabrice, l'Australian Open en 2003 et en 2004.
Ouais.
Et avec Arnaud à Wim en 2007. Lequel tu préfères?
C'est dur de dire. Après, voilà, il y avait vraiment un écart de génération entre moi et Fabrice. Voilà, il avait 30 ans, j'en avais 22, je suis arrivé sur le circuit. Il a vu rapidement que j'avais les qualités de joueur de double. Et puis, ça a matché directement. Voilà, premier tournoi qu'on fait, on fait finale d'un tournoi du Grand Chelem. On fait pas de tournoi de préparation, rien du tout. On perd en finale. Pour moi, c'était la chance de ma vie. Je pars en finale, je suis effondré.
Ouais.
Et l'année d'après, on remet ça et on gagne contre les mêmes joueurs en finale. Donc, c'est vrai qu'on a vécu première victoire d'un Grand Chelem. Tu dis, je vais en gagner un dans ma vie. Voilà, ça s'arrête, quoi. Moi, il fallait savoir que depuis les Mousquetaires, il n'y avait pas eu de vainqueur de Grand Chelem.
Ah ouais.
Et donc, ça remontait à très, très longtemps, quoi. Puis après, j'ai décidé d'arrêter avec Fabrice pour diverses raisons, mais surtout parce que j'avais envie de me consacrer un peu plus au simple et que, j'avais, on va dire, lié d'amitié très, très fort avec Arnaud Clément. Et puis, je savais qu'avec Arnaud, je pouvais jouer moins de tournois, qu'on serait compétiteurs tous les deux. On avait déjà joué des matchs de Coupe Davis. Et puis, et pourtant, on arrête avec Fabrice, on vient de gagner le Masters. Et je lui annonce que je vais arrêter. Donc là, il comprend pas forcément quelle équipe arrête en gagnant un tournoi. Mais bon, là, pour moi, on avait joué 4 ans,
ouais,
c'était la fin d'un cycle. Et puis, j'avais envie de me donner plus de chance. Donc 2006, tout le monde me tombe dessus. On me dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes de jouer avec Fabrice. C'est un grand, grand joueur de double. Mais je ne remettais pas en doute ses qualités de joueur de double. Mais c'était plus moi, envie d'essayer de me donner une chance. J'avais 25 ans et essayer, pourquoi pas, d'aller franchir un cap. Puis finalement, je ne me suis pas retrouvé. C'était hyper dur.
C'est vrai.
En 2006, c'était très, très compliqué parce que je me mettais beaucoup trop de pression en simple. Je n'avais pas finalement cet échappatoire qu'on peut avoir quand tu perds en simple, tu joues en double. En tournoi, je n'aimais pas m'entraîner, passer du temps à l'entraînement. J'aimais bien m'entraîner et faire surtout du double. J'étais vraiment un compétiteur. Et puis, c'était un peu plus compliqué. Malgré tout, on arrive à gagner quelques tournois, notamment Bercy à la fin d'année, où on affronte Fabrice en finale. Donc, ça a été beaucoup de tension parce que, bien évidemment, nous, on était sélectionnés en Coupe Davis. Pour lui, c'était un vrai... c'était très houleux que j'arrête, quoi, de jouer avec
lui. Vous étiez un peu en froid à ce moment-là.
Ouais, forcément, il comprenait pas, quoi. Lui, il s'est mis à jouer avec Nenad Zimonjić, avec qui j'ai joué plus tard, mais ça a été compliqué pendant un moment donné. Puis après, les choses se sont faites. Puis après, en 2007, c'était pas mes meilleures années en simple. Je luttais pour franchir le cap. Et puis, on fait un match, un match incroyable. On sauve 3 balles de match sur mon service avec Arnaud au premier tour de Wimbledon. Et puis derrière, la magie opère. On avait instauré une petite tradition de boire une bouteille tous les soirs.
Parfait.
On allait chercher cette bouteille à Wimbledon Village. Et puis, puis on gagne le tournoi le plus mythique, on va dire, je pense, en double, Wimbledon, qui est au meilleur des 5 manches, qui est une vraie tradition. Et ça restera gravé à jamais dans nos mémoires, dans nos vies, quoi.
Wimbledon, c'est spécial pour tout le monde.
Oui, qu'on le veuille ou non, c'est un tournoi à part. Et même, je pense, même pour Rafa, qui a gagné 13 fois Roland-Garros, je pense que Wimbledon reste un tournoi à part. Parce que jouer sur gazon, c'est incroyable. C'est pas du tout la même atmosphère, le même déplacement. Le fait de jouer sur gazon, moi, j'avais envie de plonger tout le temps, quoi. C'est tellement mythique. Et puis la tradition, quoi, ce côté... tellement mythique, mystique presque.
Historique.
Exactement. Quand tu arrives sur le central, toute cette... ce cérémonial, où tu passes par les vestiaires, c'est incroyable, quoi.
De quoi t'es le plus fier quand tu regardes en arrière?
D'avoir réussi à fonder une famille pendant ma carrière. parce que c'est vrai que la génération où je jouais, il n'y avait pas un copain qui avait un gamin. Je me faisais pourrir par Arnaud Clément à chaque fois parce que je reculais les départs, que j'arrivais 2-3 jours après lui. Il me disait, mais attends, mais sans déconner, t'es pas pro. Voilà, j'ai toujours passé Noël à la maison. Voilà, c'était hyper important. La vie de famille, pour moi, c'était un équilibre, un moteur. Et c'est vrai que la génération jouait, ils n'avaient pas d'enfants, quoi. Donc, j'étais un petit peu l'ovni, quoi. Et c'est vrai. Moi, pour moi, c'était une priorité et j'ai fait des concessions pendant ma carrière au détriment de ma carrière sportive. Annuler des tournois parce que j'étais pas bien ou que voilà, j'avais envie de voir mes enfants ou je partais au dernier moment parce que je voulais profiter au maximum. Je sais pas si j'aurais été un meilleur joueur si effectivement j'avais absolument tout donné parce qu'aujourd'hui, avec le recul, bien évidemment, j'ai fait des sacrifices. Je ne sais pas si effectivement ces sacrifices m'auraient permis de franchir le cap, d'aller chercher le top 10 et pourquoi pas. Parce que pour moi, c'était hyper important que ma famille se sente bien, soit heureuse. Et si elles étaient heureuses, j'étais heureux et c'est là où je pouvais bien jouer, quoi. Donc ça a été dur de trouver l'équilibre au début parce que forcément, en tant que jeune père, jeune marié, voilà, tu te poses toujours des questions, comment t'es. Mais ça a toujours été le moteur, quoi. Les enfants, ma femme. Et aujourd'hui, je pense que si j'ai fait une carrière, ce qu'elle a été, c'est en partie grâce à cette famille.
J'ai pas l'impression que c'est un regret.
Non, pas du tout. Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais bien évidemment, en toute humilité, en toute transparence, il y a toujours une part de moi qui se dit ah, si t'avais fait ça, si t'avais fait ça, okay. Si t'avais fait ça. Mais j'en suis pas persuadé. Je suis tellement quelqu'un qui a besoin d'amour, de partage, de convivialité. Les fois où j'ai bien joué, c'est parce que voilà, tout était parfait dans ma vie sentimentale. Il y avait une alchimie entre mon entraîneur, ma famille, et que j'étais bien trop émotif pour être régulier. J'ai toujours eu des hauts et des bas pendant toute ma carrière parce que j'étais une pile électrique et c'était ma manière de fonctionner. J'adorais me mettre en danger pour pouvoir rebondir. Ça a toujours été comme ça, et même dans la jeunesse. Et j'aimais bien provoquer, aller chercher pour me faire virer, pour montrer « Ah ouais, vous voulez me virer ? Ok, je vais vous montrer que vous avez fait une erreur. » Toujours dans la provoque, dans la recherche de montrer aux autres « Ah d'accord, ok, d'accord. » Voilà. Et encore aujourd'hui, je suis compétiteur dans l'âme, même quand on va jouer au foot, au paddle. J'adore le chambrage. J'adore aller titiller les personnes. Vrai. J'adore me faire chambrer. Et c'est presque une marque d'affection, d'amour quand je chambre la personne. Si je chambre pas la personne, c'est que finalement, c'est pas que c'est pas mon signe, mais c'est que je m'entends pas forcément bien avec elle. Voilà. Et ça m'a joué des tours parce que de temps à autre, forcément, les gens n'ont pas compris ou peuvent se dire, il a le boulard, lui, il se prend pour qui, machin. C'était quelque part à prendre ou à laisser, mais ça faisait partie de moi, de Mickaël Audrat, quoi.
Tu regardes aujourd'hui le tennis ? Tu suis ce qui est...
Avec un peu plus de recul, on va dire, même si j'aime bien suivre les scores, ça reste, qu'on le veuille ou non, une partie de ma vie qui m'a fait tant rêver. Je regarde les joueurs que j'aime, forcément.
Qui sont ?
Nico Mahuc, avec qui j'ai vécu des grandes choses aussi sur le circuit. Je regarde Rafa, forcément, parce que j'ai eu la chance de l'affronter et que c'est un gars qui est tellement extraordinaire. Voilà, plutôt l'ancienne génération, parce que forcément, des joueurs qui arrivent à perdurer, pour moi, c'est exceptionnel. Ce que fait Andy Murray, avec près des blessures, et que les gars soient complètement omnibulé pour revenir, c'est une force que je n'avais pas et que je respecte énormément, quoi. Donc voilà, mais avec plus de recul, je suis plus au taquet au foot, on va dire, pour être très honnête.
Qui est-ce qui te plaît dans la jeune génération ? Il n'y en a peut-être pas. Hein.
C'est dur ce que je vais dire, mais je trouve que le tennis est devenu un peu trop lisse dans la conception du jeu. Et je pense que les instances du tennis ont voulu, uniformiser le tennis, quoi. C'est-à-dire que les surfaces, c'est presque les surfaces les plus rapides, c'est les terres battues extérieures quand il fait chaud. Tu joues en salle, des fois, la balle, elle avance pas, c'est des rallyes. Tu regardes 10 minutes le match. Voilà, c'est comme si tu avais regardé 2 heures, 3 heures, c'est exactement pareil. Ce que j'adorais, moi, c'était les oppositions de style. Ouais. Agassi-Sampras, voilà, des rafters contre des Ewitt. Enfin, voilà, c'était des attaquants, défenseurs. Et aujourd'hui, ça s'est perdu parce que, voilà, aujourd'hui, on enseigne le tennis d'une manière gros service, coup droit, retour, gauche, droite. Et ça manque de peps pour moi, quoi. Je me retrouve pas aujourd'hui dans les joueurs que je vois à la télé. Alors, je veux pas dire qu'il faut faire service volé première seconde, mais j'aime bien quand on crée du jeu, quand on varie, qu'il y a un peu de spectacle, quoi, quelque part, quoi. Et aujourd'hui, j'ai plus trop de joueurs. Je me régale si je vais avoir un Kyrgios, même si je cautionne pas tout ce qu'il fait, mais au moins, il y a de la création dans le jeu, il y a du peps, quoi. Un Gaël de temps à autre, parce qu'on sait très bien qu'il va se passer quelque chose. Et voilà, je suis aujourd'hui un peu nostalgique de ce qui se passait avant. Ouais.
Tu es consultant pour France Télé. Ça, c'est une façon un peu de partager ton expérience. Mais t'as jamais voulu être coach ou accompagner des joueurs ou des joueuses?
Ah, je suis peut-être le dernier Mohican. C'est vrai que quand on regarde tous les joueurs qui ont arrêté, ils baignent dans le tennis, de près ou de loin, soit en tant que coachant, soit en bossant à la Fédé, en tant qu'entraîneur, agent, ou voilà, directeur tournoi. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu me détacher de ça. Une fois que j'ai arrêté, j'ai déménagé sur Bordeaux. Et c'est un vrai lien pour moi de continuer à bosser dans le tennis à travers être consultant pour France Télé. Mais j'adore la jeunesse, j'aurais aimé forcément, et je pense que j'ai pas envie de dire aujourd'hui l'actualité fait que voilà, je rentre pas dans toutes les cases forcément, mais voilà, c'est vrai que j'aurais adoré être capitaine de Coupe Davis, parce que ça a été un moteur et que ça me fait beaucoup rire aujourd'hui de voir comment ça évolue, ne serait-ce la compétition et ce qu'on peut dire de la Coupe Davis et tout ça, mais voilà, moi ça a toujours été un moteur, et j'aurais adoré de pouvoir transmettre ma passion, les valeurs qui sont importantes pour moi à cette jeune génération. Peut-être que ça viendra un jour, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un peu détaché de tout ça. J'ai beaucoup souffert de pas avoir été nommé capitaine à un moment donné où je pensais pouvoir apporter à cette génération que je connais, avec qui j'avais joué, et puis la nouvelle génération où je sentais que voilà, pouvoir apporter quelque chose. L'histoire n'a pas été écrite, mais voilà, je me dis peut-être un jour, mais c'est vrai que j'ai été un peu échaudé.
T'avais postulé après Arnaud, c'est ça?
Ouais, il y a quand Arnaud s'est fait virer, pas d'une belle manière d'ailleurs, mais voilà, où j'ai défendu ses intérêts corps et âme quand j'étais président du Club France Coupe Davis.
Exact.
Pensais répondre à pas mal de critères, et puis finalement, Amélie a été choisie Mauresmo. Alors je ne critique pas le fait d'Amélie, hein, qui a tout pour elle. Elle a été nommée, puis elle s'est retirée finalement pour s'occuper de Lucas Pouille. Le fait de ne pas être dans le sérail, de ne pas garder ma langue dans la poche et de dire vraiment ce que je pense, d'avoir des opinions peut-être tranchées sur certaines choses. Et une nouvelle fois, ça n'a rien à voir avec Seb, que je respecte, que j'adore, et qu'un formidable capitaine de Coupe Davis, et que voilà, avec qui j'ai vécu des joies immenses. Mais bon, je parle de moi, et je pense que j'aurais aimé transmettre en tout cas ce qui m'a le fait le plus rêver dans ma carrière, quoi. Et voilà, c'est une petite déception parce que.
Mais c'est voilà, quelque chose qui te plairait et qui n'est pas
complètement,
fermé.
Complètement. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être que le train est passé, parce que forcément, j'ai été très abîmé, forcément, parce que t'apprends des choses, et puis. Et puis, qu'on le veuille ou non, forcément, il y a beaucoup de gens jaloux qui racontent tout et n'importe quoi. Et puis, forcément, dès qu'il y a un petit peu un enjeu économique, de pouvoir, ça fait des jaloux. Et puis, voilà, moi, j'étais peut-être pas forcément dans le sérail, où effectivement, il faut placer ses pions. Ouais. Et ça n'a jamais été mon cas. Donc. Qu'on le veuille ou non, il y a un côté politique qui me ressemble pas. Mais je suis pas revanchard, je suis pas
rancunier.
Voilà, ça fait partie, je pense, de la carrière d'un sportif de haut niveau, avec tout ce que ça représente. Il faut être capable d'accepter, on va dire, des erreurs ou de moins des retournements de situation. Et aujourd'hui, je suis très heureux dans ce que je fais. Je suis passé de l'autre côté de la barrière. J'ai eu la chance d'être passionné. Voilà, par ce que je fais aujourd'hui, par le monde du vin, et voilà, ça me va très bien.
On a dit que c'était après Arnaud, Clément, mais en fait, il y a eu Yannick. Ouais, et c'était après Yannick, alors.
Ouais, exactement.
Pour être précis. Tu disais, voilà, c'est quelque chose qui aurait pu te plaire. Aujourd'hui, on a un creux en France par rapport aux générations qu'on a connues, même par rapport, on parle bien sûr de la génération 86, 85, 84 avec Gaël, Richard, Gilles et Joe. Mais même avant, vous, votre génération était très dense. Il y avait beaucoup de joueurs dans le top 100, il y avait un réservoir. Là, on sent qu'il y a un petit creux. Quel regard tu portes sur ça? Est-ce que tu penses que c'est parce que nous, Français, avons fait des choses pas de la bonne manière? Ou est-ce que c'est juste... juste un trou de génération.
Je pense sincèrement que j'ai pas toutes les réponses,
ouais.
Mais j'ai un avis assez tranché, c'est qu'à l'époque il y avait une vraie émulation entre tous les joueurs, que c'était une part de fait. Aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression qu'il faut être pro à 12 ans, quoi. Et moi, je l'ai vu avec mon fils, qui a 15 ans aujourd'hui. J'entendais des coachs, des entraîneurs. Quelque part, il fallait s'entraîner 4 heures par jour et il n'y avait plus cette notion de partage, de se faire plaisir. Un gamin, il est heureux quand il joue, quand il se marre. Et je pense qu'on a essayé de faire des champions trop tôt. À l'époque, moi je me souviens, la génération 80, Julien Jean-Pierre, Jérôme Hénel,
Nicolas
Devider, Olivier Patience. On a tous été top 100 pratiquement, ouais. Et ça reste une génération qui était, alors on n'a pas eu de top 10, mais avant il y a eu l'année avec Arnaud Di Pasquale, Jean-René Lisnard, bon, c'était très dense en 80, avec ton frère, ouais. Avec Florent Serra, Thierry Assion, 82, Polo, Nico Mahut, on a eu un réservoir de jeunes joueurs incroyables. Et puis forcément, je pense que le niveau moyen, c'est très densifié. Quand je regarde le niveau de jeu aujourd'hui dans les Challengers, c'est impressionnant. Devant, je mettrais pas, je pense pas qu'il soit meilleur qu'à l'époque, mais là, entre 80 et 200, ça joue au tennis, hein, honnêtement.
C'est avant, plus il y avait difficile d'y arriver.
Ah ouais, impressionnant. Donc voilà, donc aujourd'hui, je pense que on arrive un peu plus tard aussi. À l'époque, on pouvait à 16-17 ans remporter un tournoi du Grand Chelem ou être très très fort. Maintenant, on voit bien, il faut avoir, à part des exceptions comme peut-être Alcaraz, machin, mais c'est plus à 23-24 ans qu'on arrive à éclore. Par contre, on dure plus longtemps.
Ouais.
À l'époque, Sampras, Becker, Edberg, ils arrêtaient à 29 ans, 30 ans, quoi. Maintenant, plutôt 35, voire plus. Federer, 40 ans.
Il me reste plus qu'à te remercier, Michael. Merci beaucoup pour ce bon moment. Ça a été un vrai plaisir. Tu vas jouer ton match de jubilé contre Henri Lecomte, je crois, cette semaine au Challenger de Primrose, c'est ça ?
Avec Guy Forget et Arnaud Clément.
Magnifique.
Exactement. Je pouvais pas rêver mieux. Arnaud, qui est avec qui j'ai vécu ma plus belle victoire en double, forcément, à Wimbledon. Et puis, ceux qui m'ont fait rêver dans ma jeunesse.
Les gauchers,
Henri Lecomte, Guy Forget. Guy, qui a été mon capitaine pendant 12 ans, et Henri, qui était mon idole de jeunesse. Donc, savoir dire au revoir et puis de passer du temps comme ça avec ces idoles de jeunesse, c'est fabuleux. Je suis tellement excité de pouvoir échanger avec eux et de dire au revoir une bonne fois pour toutes.
Et ben, nous on dit au revoir. Merci Mika.
Merci Antoine.
Merci beaucoup à Mika pour sa disponibilité et son honnêteté. Merci à Camille, Thomas et Julien qui se reconnaîtront et qui ont rendu ce moment possible. Ils m'ont fait vivre un week-end hors du temps. Merci au studio Load dans lequel je me trouve, Adrien Noël au son et cette magnifique musique de Laurent Aknin. On s'écrit, nous, sur les réseaux sociaux, partagez les épisodes qui vous plaisent et suggérez-moi des invités. On se retrouve vite pour de nouveaux épisodes d'échange avec pas mal de surprises à venir. D'ici là, prenez soin de vous.